Allô, Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Allô Radio Immo. Comme vous le savez, on traite un sujet une fois par mois et on va s'intéresser à l'habitat indigne pour ce mois de novembre 2023. 1 million de personnes sont concernées par des copropriétés dégradées. L'habitat indigne, ça représente 400 000 logements. Une question importante, voilà ce qu'a souligné en tout cas le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergriete. C'était lundi 23 octobre dernier lors de la remise du rapport de la mission relative au renforcement de la lutte contre l'habitat indigne. Alors, qu'est-ce que l'habitat indigne? Que peut-on faire? Pourquoi pas un contrôle technique, tiens, de l'habitat qui viserait à contrer justement cet habitat indigne? Dans quel but? Quels seraient éventuellement juridiquement même les freins, les obstacles? Que peut-on faire d'autre si cette mesure n'est pas appliquée? Pour en discuter, nous sommes en compagnie de deux experts. Guillaume Vuitté, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Député de la deuxième circonscription du Val d'Oise, rapporteur de la mission sur l'habitat indigne, c'était déjà en 2019. Et on va voir qu'est-ce qui a changé depuis ou pas d'ailleurs. Et puis à vos côtés, un autre spécialiste, domaine de compétences principaux, le droit immobilier. C'est un habitué des plateaux de Radio Immo, maître Romain Rossi-Landy, avocat. Bonjour Romain.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Bonjour maître. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite avec peut-être circonscrire un petit peu le sujet. Guillaume Vuitté, l'habitat indigne, c'est quoi?
Eh bien, la question mérite d'être posée parce que très souvent, c'est ce que j'avais remarqué quand j'avais fait ce rapport pour Édouard Philippe, c'est quand on parle d'habitat indigne, brusquement, tout se bouscule. On dit indigne, insalubre, enfin bref.
Oui.
Parce qu'on a du mal à définir ce qu'est un habitat qui serait digne, qui serait salubre. Vous parliez de 400 000 logements. Alors, moi, j'ai compris ça comme ça. Je vais vous raconter l'anecdote quand même. Pourquoi 400 000? Parce qu'on a établi un chiffre qui est celui du parc privé potentiellement indigne, le PPPI. C'est quoi le PPPI? C'est un habitat ancien qui est habité par des gens qui sont en fragilité économique. Donc on se dit, ces gens n'ont pas de sous et que c'est un habitat ancien, bah, il y aura un problème d'entretien, donc fatalement ça devient potentiellement indigne. Et l'administration a dit, bon, grosso modo, il y a un tiers de ces habitats qui doivent être insalubres. Et l'abbé Pierre a dit, bah non, c'est pas un tiers, c'est la moitié. Donc...
Donc on est déjà dans une bataille de chiffres.
Mais qui a quasiment doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on a un truc qui est d'ailleurs un intérêt limité. Hein.
On est dans une bataille de chiffres, mais surtout, les notions d'indignité ne sont pas très claires dans la
bien
loi.
Sûr.
Indignité, insalubrité, indécence. Il y a différents textes, si vous voulez, qui se cumulent, qui parlent de notions différentes, finalement. Et donc, même en tant qu'avocat spécialisé en droit immobilier, je vous assure que c'est assez difficile de s'y retrouver. En gros, l'insalubrité, c'est ce qui concerne l'administration, qui peut prendre des arrêtés d'insalubrité. Et l'indignité, c'est plutôt dans le rapport locatif privé entre le bailleur et son locataire. Il y a quand même une définition légale qui a été donnée de l'habitat insalubre par la loi du 31 mai 90. En gros, je vous la fais rapide, mais c'est un habitat indigne est un habitat qui menace la sécurité physique et la santé de l'occupant.
D'accord.
Grosso modo, c'est ça.
Et l'autre référence qu'on peut avoir qui est assez simple, c'est l'habitat décent, c'est-à-dire qu'il y a un décret qui date de 2002 qui définit dans quelles conditions on habite un habitat décent. Ce qui veut dire, un peu en creux, que si c'est pas décent, on devrait pas l'habiter. Donc voilà, mais on est vraiment dans des épaisseurs de traits qui sont très compliquées et qui ont été d'ailleurs à l'origine, d'une part, de la complexité initiale. C'est que, pour le coup, je vais me rendre grâce, entre guillemets. Le rapport que j'ai fait à l'époque était fait pour simplifier les procédures. Il y avait 13 polices administratives qui s'intéressaient à la chose, 21 procédures. Après ce rapport, on a l'ordonnance qui a suivi, on a réduit à 2 polices administratives et 4 procédures. Donc déjà, c'était beaucoup plus simple. Mais à chaque fois, on est dans des épaisseurs de traits qui peuvent nourrir, y compris des avocats beaucoup moins scrupuleux que... Ouais.
J'ai une première question. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment de rénovation, on parle des passoires thermiques, même des bouilloires thermiques. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le confort d'hiver, simplement. Là, on rentre dans novembre, mais on a eu un été très chaud. Et certains même étouffent. Est-ce que, par exemple, quand il fait trop chaud l'été, c'est de l'habitat indigne?
Ça fait partie, encore une fois...
Trop froid l'hiver, mais ça...
Normalement, dans le décret d'essence, il doit y avoir un système de chauffage qui est adapté. Il doit y avoir des systèmes de ventilation. C'est peut-être d'ailleurs la seule différence, quoi, on reviendra sur le contrôle technique, avec les diagnostics qui sont actuellement demandés aux bailleurs, parce qu'on croit qu'il n'y a rien qui est demandé, mais il y a plein de diagnostics qui, d'ores et déjà, sont exigibles de la part des bailleurs quand on est locataire. Qu'on peut demander. Donc, on a une définition qui est un peu au coup par coup. Et... Un des enjeux, c'est vrai, de la rénovation thermique, la transition écologique, c'est que quelque part on fait, c'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la poésie sans le savoir, c'est qu'on résout l'indignité un peu sans le dire complètement, parce qu'il est quand même bien rare que l'habitat indigne soit pas aussi une passoire thermique.
Oui, alors juridiquement c'est différent. La passoire thermique, ouais, selon les logements classés, si vous voulez F, G, aujourd'hui on peut plus les louer quand même. Ouais. Et donc là, ça c'est quand même important que vous me donniez la parole là-dessus, parce que c'est 5 millions de logements dont on parle, 5 millions de logements dont on parle qui vont sortir a priori du marché, parce que alors vous
dans
connaissez
un contexte qui est déjà pas
c'est simple. Très compliqué de faire les travaux de rénovation. Déjà il faut trouver un artisan RGE qualifié, il y en a pas, ouais, ou il y en a très peu. Ensuite il y a tout un tas d'obstacles qui peuvent j'ai eu un exemple, je vous donne un exemple concret. Moi j'ai un client, il a un immeuble entier à Paris, porte de Vincennes, il veut faire ses travaux parce que évidemment il est mal classé. Donc il se renseigne, il va déposer un permis de construire parce qu'il veut faire une rénovation par l'extérieur, enfin une isolation par l'extérieur. Et là, il a eu un obstacle. L'architecte des bâtiments de France lui a dit non, pas possible, parce que vous êtes vous êtes dans un rayon de 500 mètres de co-visibilité d'un monument historique, on ne sait même pas lequel. Donc pareil, en gros, vous êtes partout dans un rayon de 500 mètres, vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'a pas eu le permis. Il me dit, du coup, je suis obligé de les faire par l'intérieur, ce qui est beaucoup plus compliqué parce que je vais devoir déloger mes locataires. Ouais. En plus, je vais perdre des mètres carrés. Donc j'ai aucune envie de le faire. Et là, il est tellement écœuré qu'il a presque envie de vendre son immeuble. Vous voyez les exemples concrets.
Avant qu'on passe au compte technique, je veux bien qu'on reste deux minutes là-dessus parce que c'est vraiment un sujet important. Et d'ailleurs, une partie de la polémique qui a été générée par cette proposition de loi, que j'avais faite déjà, c'est d'ailleurs étonnant, j'avais fait déjà en 2020, elle était passée complètement sous les radars et là, brusquement, elle a créé davantage de d'émoi parce que ça. Parce que la proximité des échéances sur les F et G, on est déjà sur du G+, et des... Moi, je défends la mesure sur un point, c'est qu'il faut être clair. Quand on ne fait pas les travaux d'isolation ou de rénovation thermique, c'est le locataire, c'est l'occupant qui va payer. Parce qu'il va payer une facture énergétique beaucoup plus forte. Et en ce moment, on voit bien qu'en termes de pouvoir d'achat, ça peut être désastreux pour des tas de personnes. Et si ce n'est pas lui, parce qu'il n'a pas les moyens de payer, c'est-à-dire qu'on demande à l'État de faire des chèques énergie. Et donc, c'est la collectivité, c'est nous tous qui allons payer pour des gens qui n'ont pas fait des travaux. Donc, je pense qu'il faut défendre ce principe. Par contre, il faut un accompagnement qui n'ait rien à voir avec... Là, on commence à mettre les outils en place. On peut aussi convenir qu'on a peut-être un peu tardé.
Ça suffit pas. J'ai les chiffres. La rénovation énergétique, c'est 1 000 euros le mètre carré. Et il y avait un reste à charge en moyenne de 16 000 euros pour le propriétaire. Oui. Après les aides. C'est 16 000 euros pour la plupart des propriétaires bailleurs. C'est trop cher. Faut bien comprendre ça. Vous le savez, le bailleur individuel, c'est pas quelqu'un qui, en général, il a besoin de son loyer pour payer sa retraite. C'est souvent ça l'archétype du petit propriétaire. C'est pas toujours le propriétaire institutionnel qui peut effectivement. Donc 16 000 euros, c'est beaucoup.
Bien sûr. Le budget qui vient va mettre des moyens supplémentaires. Il faut voir s'ils sont jugés. Et puis bon, mais ça, je parle à titre personnel pour le coup. Je pense que là, il faut aussi prendre un peu de la mesure des choses. Il n'y a pas en Île-de-France, il n'y a pas un bâtiment qui soit pas à 500 mètres d'un bâtiment classé.
Enfin, bien sûr.
Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quoi. Mm-hmm. Donc soit on veut faire une transition énergétique, et oui, à un moment donné, il faudra faire par l'extérieur, parce que pour toutes les raisons que vous venez de donner,
c'est d'autant que c'est la plus efficace.
C'est beaucoup plus compliqué à l'intérieur. J'avais dans ma permanence encore un monsieur il y a quelques jours qui me disait, mais on est sur des trucs où on lui supprime 30 cm dans une pièce, ça ne veut rien dire. Donc il va falloir qu'on adapte. Enfin, moi je pense qu'il faut qu'on adapte les choses là-dessus.
Guillaume Vuitté, donc après ce travail de simplification que vous avez effectué, vous avez récemment déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour imposer un contrôle technique sur les logements. Le but, il est clair, lutter contre les 400-450 000 logements occupés et considérés comme indignes. Pourquoi ce contrôle technique qui serait valable un petit peu, alors pas comme une voiture, il ne faudrait pas le refaire tous les deux ans, il serait valable 10 ans, mais il serait contraignant. Expliquez-nous.
En effet, l'analogie, je sais que l'analogie avec les voitures est un peu choquée, mais je la maintiens parce que c'est aussi ce qui a fait qu'il n'y avait plus de cercueils roulants dans notre beau pays. Ça a été très efficace de ce point de vue. Moi, je pense que ça protège évidemment les locataires. C'est-à-dire ce contrôle technique, c'est de dire est-ce que le local dont on parle est conforme au décret d'essence. Le décret d'essence est somme de caractéristiques. Là, je les ai devant les yeux. Il y en a une grosse demi-douzaine, on va dire.
Aération, électricité aux normes, irréprochabilité concernant les parasites et les nuisibles.
Et là-dedans, et grosso modo, on est sur déjà, encore une fois, les diagnostics qui doivent être produits par un propriétaire bailleur quand il veut louer son local, enfin c'est son logement, et avec en effet l'aération qui est moins bien prise en compte, c'est sans doute les nuisibles qui sont moins mises en compte. Enfin, j'imagine mal des gens louer aujourd'hui un local où il y a qui circulent en toute liberté. Donc l'idée, et donc évidemment pour le locataire, c'est qu'il arrive dans un local dont il sait qu'il est apte à le recevoir, mais je pense que ça protège aussi le bailleur, pour trois raisons au moins. La première, c'est que ça permet au bailleur de savoir d'être sécurisé. Mmh. Et si jamais il a son locataire qui lui dit, mais attendez, c'est pas conforme et je veux plus payer, etc., d'avoir un document qui dit, bah voilà, si c'est conforme, la preuve c'est qu'il y a cette consolidation des diagnostics, ce coup de tampon qui fait que je peux vous garantir que c'est louable. Deuxième chose, c'est que c'est vrai aussi pour les propriétaires qui sont voisins des logements insalubres, parce que le logement insalubre, il ne touche pas qu'un seul logement. Petit à petit, les moisissures, la dégradation du bâti, les structures qui sont abîmées, c'est l'ensemble du logement. Et moi, j'ai eu depuis des témoignages de gens qui disent, mais j'ai mon voisin au-dessus, c'est une horreur, c'est syndrome de Diogène, etc. Et donc, avec des écoulements dont on évitera de donner de la caractéristique, et que petit à petit, qui a pourri le plafond, qui attaque le logement en dessous. Donc ça protège aussi le propriétaire à cet égard. Et puis le dernier point, c'est que parfois, il y a des propriétaires qui sont marchands de sommeil sans le savoir. Parce qu'ils sont pas, parce que c'est pas
marchands
si simple.
De sommeil sans savoir, c'est-à-dire que ils s'aperçoivent pas qu'ils sont sur quelque chose de vieillissant qui n'est pas forcément aux normes.
Ils pensent faire la bonne affaire. En effet, ils ont investi, peut-être qu'ils ont investi 20 ans avant d'ailleurs, pour rénover un peu, donner un coup de propre, comme on disait à l'époque, pour pouvoir louer et assurer des revenus plus tard. Et puis les normes ont changé, et puis il y a des choses qui sont dégradées, puis un bâtiment évolue. Et je pense qu'il est utile de leur donner ce genre de rendez-vous à date, évidemment en mobilisant les aides nécessaires. Il ne s'agit pas de laisser totalement seul par rapport à ça. Quand j'avais fait mon rapport pour Édouard Philippe, j'avais rencontré les gens de l'ADIL du Puy-de-Dôme, et qui m'avaient dit que les 4/5 des propriétaires, quand on leur signalait un sujet, faisaient les travaux plus vite, parce qu'ils se rendaient compte simplement. Après, il ne faut pas oublier que dans les logements insalubres, il y a la moitié des occupants qui sont les propriétaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des propriétaires bailleurs, il y a aussi des propriétaires occupants. Et là, il peut y avoir des personnes âgées qui se rendent moins compte, qui sont un peu isolées, des personnes en fragilité, qui laissent un logement se dégrader.
Ou qui n'ont pas les moyens, effectivement. Voilà. Bon, donc il n'y a pas que d'affreux marchands de sommeil. La parole à la défense.
Aussi, oui, alors, sur cette mesure-là, je la trouve intéressante. Effectivement, ce contrôle technique des bâtiments, on sait les drames qu'il y a eu encore récemment à Lille. Lille. Pour le coup, je pense que ça n'aurait rien changé parce que c'était imprévisible l'effondrement de l'immeuble. Personne ne pouvait le voir venir. Mais c'est intéressant, effectivement, je vous rejoins, notamment pour le bailleur. Effectivement, la plupart de mes clients sont des propriétaires bailleurs qui, effectivement, auront un moyen de se défendre face à un locataire un peu indélicat qui viendrait dire « Attention, mon logement n'est pas décent ». Effectivement, ça leur permettrait, parce que souvent, c'est compliqué dans ces dossiers. Aujourd'hui, c'est très compliqué de prouver la décence de son logement. Alors, on peut donner des factures de travaux.
Donc, caricature, on pourrait dire « Tenez, regardez, le contrôle technique est à jour. On a fait tous les travaux. »
Ça devrait aider normalement. Après, c'est le juge.
2020, donc finalement, pendant 10 ans, on ne peut pas dire que
c'est l'idée.
Alors, ça, je trouve ça intéressant. En revanche, il y a déjà des choses qui existent. Le permis de louer, il existe. Alors, c'est effectivement la grande différence, c'est que dans le permis de louer, c'est les communes qui décident de l'instaurer. Il y a très peu de communes qui l'ont fait, finalement, je crois. J'ai pas les chiffres, mais je sais que c'est assez rare. Mais ça existe déjà. C'est-à-dire que le maire, sur son territoire, décide d'instaurer un permis de louer. Et effectivement, le bailleur, pour pouvoir louer, doit faire contrôler au préalable son logement. Et il y a un inspecteur, alors on manque de moyens, mais il y a un inspecteur de la mairie qui passe, qui dit « Bon, ok, vous pouvez louer ». Donc pour moi ça existe déjà, sauf que là la différence effectivement c'est qu'on fait supporter cette responsabilité sur le propriétaire et non pas la commune.
Guillaume Vité.
Ça en effet une des différences. Après il faudra peut-être un accompagnement aussi là-dessus, de façon à ce que les gens ne soient pas avec un mur de ressources qui les empêche de le faire. Le permis de louer c'est bien mieux que rien, mais c'est pas si simple. Enfin, c'est pas non plus le mot magique. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, ce sont les communes qui doivent définir un périmètre dans lequel on a le permis de louer, qui doivent envoyer des agents qui, etc. On va être clair, toute intercommunalité ou toute commune de moins de 20 000 habitants a pas ce qu'il faut en magasin pour pouvoir le faire. Et parce que c'est dans des compétences très, très particulières, c'est pas si simple de savoir si la tache qu'il y a sur le mur, c'est juste qu'il y a eu à un moment donné une malfaçon ou si c'est un problème de moisissure. Et puis c'est pas si simple de voir si le coup de peinture qui a été fait 2 jours avant, il a bien masqué les choses. Donc ce que je crains avec le permis de louer, qui est déjà, encore une fois, déjà un progrès, c'est qu'à un moment donné, il y a des locataires qui disent « mais je comprends pas, le propriétaire m'a montré un permis de louer, et puis il y a des moisissures qui apparaissent, donc je vais aller voir la mairie, je vais dire relogez-moi ailleurs, puisque c'est vous qui avez donné le permis de louer. » Et là, de ce point de vue, je pense que c'est bien de responsabiliser les propriétaires, mais aussi, encore une fois, parce que le diagnostic, la plupart sont existants, et que, quelque part, je maintiens que ça les sécurise. Moi, je crois beaucoup qu'il faut, si on veut débloquer la situation du logement dans ce pays, il faut sécuriser l'acte de louer. Il y a eu, avec la loi Kasparian, quelque chose qui a été un vrai progrès. Parfois même, d'ailleurs, je trouvais un peu excessif, mais en tout cas, c'est un vrai progrès, parce qu'il faut protéger les gens contre les squatteurs, contre les personnes indélicates, mais il faut aussi que, dans l'autre sens, on garantisse aux propriétaires le fait qu'ils puissent sereinement louer sans se dire qu'ils vont avoir un procès le lendemain. Parce que, je reviens à mon marchand de sommeil malgré lui, quand on a brusquement le locataire, et là qui n'est pas indélicat, qui a vraiment un problème d'asthme pour ses enfants, etc., qui va voir le tribunal pour dire « je veux qu'il y ait des travaux », là, le problème, ce n'est pas la limitation du loyer, hein. C'est savoir comment on sort les sous pour faire les travaux, et dans l'urgence.
Bien sûr.
Ce qui fait peur aux bailleurs, vous le savez, hein, c'est la longueur de la procédure d'expulsion. La loi Casbarian, je lui ai dit à M. Casbarian, ça n'a rien changé hein, là-dessus. Les délais d'audiencement, les tribunaux et ensuite les préfets sont toujours aussi réticents et aussi longs à accorder le concours de la force publique pour exécuter les décisions de justice.
En moyenne, combien ?
Alors ça dépend des endroits, mais ça je peux vous en parler. À Paris, c'est la procédure judiciaire elle-même relativement rapide, je dirais entre 6 et 10 mois à Paris, ce qui est rapide pour l'échelle de la justice, en référé. En revanche, pour obtenir la décision après du préfet, ça peut être variable. Hein. J'ai des dossiers, là j'ai un dossier qu'on a attendu 3 ans quand même. Donc on avait une décision de justice de 2020, qu'on a enfin obtenu l'expulsion là, en septembre 2023. Vous voyez, donc le vrai levier pour les propriétaires, parce que quand vous êtes propriétaire pendant 3 ans, vous n'avez pas de loyer, vous n'avez rien, vous n'avez pas votre bien, donc c'est archi traumatisant. Moi, mes clients, une fois qu'ils ont eu cette, j'appelle ça le parcours du combattant, moi, la procédure d'expulsion, c'est terminé.
Plus en entendre parler.
Et c'est pour ça aussi qu'il y en a certains qui préfèrent aller louer sur Airbnb, c'est encore un autre débat, parce que le touriste, à la fin de son séjour, il rentre chez lui. Il reste pas dans les lieux, il y a pas besoin de faire une procédure d'expulsion.
Il peut rester peut-être une
rentabilité. Avant même la rentabilité, vous voyez.
Je pense qu'il faut laisser le dispositif généré par la loi de Guillaume Casbarian se mettre en place. Je pense qu'il y aura des implications. Mais l'histoire est simple. J'achète un appartement, un studio dans la ville centre de ma région pour que le petit dernier puisse faire ses études tranquillement dans 10 ans. Le premier locataire est très bien, c'était génial, ça m'aide à payer les loyers. Le deuxième, j'ai dû mettre des travaux. Le troisième, j'ai du mal à le virer. Et il n'y a pas de quatrième. Parce que 2 ans avant, je préfère ne pas louer, plutôt qu'avoir le risque d'avoir mon gamin qui n'a pas le logement au moins il faut. Donc derrière, c'est aussi la vacance, une partie non négligeable de la vacance qui est générée par ça. Oui. Donc je pense qu'il fallait légiférer. De ce point de vue, je défends complètement ce qui a été créé.
Comment a été accueillie cette proposition, Guillaume Vuitté, levée de bouclier, parce que l'a souligné, on est quand même dans un temps où on a une certaine, on va dire, inflation normative. On a des DPE, des plans de projets pluriannuels sur les copropriétés en pagaille, j'ai envie de dire. Et là, après cet effort de simplification, on le souligne, il y a quelque chose de nouveau, donc il y a quand même certains qui sont un petit peu émus.
Il y a toujours pas de la nouveauté, mais c'est l'histoire de notre rencontre. Il y a eu une sorte de télescopage des dates qui a été un peu malheureux, parce que la question de la proximité des réglementations en matière de DPE sont arrivées. Mais pour autant, je crois que ça va plutôt aider, encore une fois, à la simplification des choses. Parce qu'une fois qu'on... Si on met ce type d'outils en place, et je pense qu'il faut même aller un peu plus loin, mais ce n'était pas l'objet de cette proposition de loi, je pense qu'il faudrait immatriculer les logements de façon à ce qu'on ait une vraie traçabilité des travaux, de ce qui a été fait, etc. Et tout ça, ça sécurise le propriétaire, parce que ça lui permet de dire « voilà ce que j'ai fait, je suis dans les règles ». Ça, je dirais même que ça sécurise la valeur patrimoniale de son bien, parce que ça lui permet de montrer aussi, de démontrer, et pas simplement avec 3 factures qui sont dans le fond d'un dossier, qu'il a fait le travail. Bon, après, je sens bien qu'il y a une pédagogie à faire, mais c'est aussi faire la loi, c'est aussi ça. Oui. C'est aussi faire, d'une part, avoir cette pédagogie de dire pourquoi on veut faire quelque chose, écouter, échanger avec d'autres. Et puis, vous savez, il y a des fois, on a une épure initiale qui a été mise sur le papier, il faut aussi la modifier, discuter, et la faire évoluer pour arriver à un système qui est plus efficace. Et ça, c'est vraiment l'humilité qu'on doit avoir quand on essaye de faire la loi.
Sur les freins et les obstacles, qu'est-ce qu'on pourrait avoir juridiquement?
Il y a plusieurs mesures dans la proposition de loi de M. Vuitté. Donc, moi, ce qui m'a particulièrement frappé, choqué, en tant que juriste et en tant qu'avocat souvent de propriétaire, c'est effectivement, j'ai l'impression que le droit de propriété, on l'oublie un peu, notamment avec votre quatrième proposition, qui consiste, si vous voulez, à imposer, si j'ai bien compris, la signature d'un bail. Déjà, pour moi, c'est contradictoire, on ne peut pas imposer la signature d'un bail. Un bail à réhabilitation au propriétaire qui est un peu réticent à faire les travaux nécessaires pour la remise en état de son logement. Je ne suis pas du tout certain que ça passe au niveau du contrôle de constitutionnalité. Je rappelle que le droit de propriété, il est quand même tout en haut de notre hiérarchie des normes. Hein. C'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Et ce que je craignais un peu, c'est que sous prétexte de lutter contre l'habitat insalubre, ce qui est tout à fait normal, il faut évidemment se battre contre les marchands de sommeil, qu'on vienne embêter tous les autres propriétaires, qui sont l'immense majorité d'entre eux, et que ça vienne encore leur mettre des contraintes. Parce que je rappelle comme que le propriétaire, on a parlé rapidement des passoires thermiques, mais la taxe foncière qui explose. Voilà, moi je suis pas à l'UNPI, je suis avocat. C'est vrai que la plupart de mes clients sont des propriétaires, mais sincèrement, on le demande beaucoup aujourd'hui aux propriétaires. Et donc j'ai un peu le sentiment que il faudrait peut-être aussi les interroger et voir concrètement les difficultés pratiques qu'ils rencontrent au quotidien.
Alors, précision. Il y a eu en effet des voix qui étaient opposées, des voix qui soutenaient cette démarche. Je crois. Je vais venir deux secondes sur ce fameux article 4, parce qu'il en effet, il a fait un peu polémique. Sur la partie contrôle technique, je maintiens et je suis convaincu que ça aide les propriétaires plutôt qu'autre chose. Et que comme il s'agit de diagnostics qui sont déjà exigibles, somme toute, c'est jamais qu'avoir un document unique qui résume tout cela. Et ça sera pour eux une sécurité supplémentaire. Sur l'article 4, ce n'est que dans le cas de péril. Alors, sans vouloir rentrer dans la technique, les mairies peuvent dresser des arrêtés de péril quand il y a un danger imminent pour les habitants ou pour le voisinage d'un bâtiment. Et depuis que j'ai écrit cet article, j'ai eu plein de témoignages qui justement renforcent ce que je vais vous dire. L'idée, c'est de dire que quand on doit faire des travaux d'urgence parce qu'il y a un péril, et ça arrive parce qu'un bâtiment peut être contaminé littéralement par un logement qui est vraiment extrêmement dégradé. Normalement, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a un arrêté de péril. Quand la mairie dit aux propriétaires « faites les travaux », si ce n'est pas fait, ils peuvent les faire à la place et ils financent à la place et ils peuvent ensuite se rembourser sur le propriétaire, ce qui peut paraître d'ailleurs beaucoup plus violent. Alors, il y a une avance qui est faite par l'ANA qui permet d'avoir 50% des travaux qui sont couverts, mais on sait très bien que les collectivités ont beaucoup de mal à récupérer les sous et elles n'ont pas beaucoup en ce moment. Et donc, du coup, elles hésitent beaucoup. Il faut vraiment que ce soit d'arriver à la dernière extrémité du danger pour le faire. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir une forme de lissage du financement par le prêt, par un système qui s'appelle le bail à réhabilitation. Alors, en effet, moi, j'écoute ce que vous dites, Maître, et je pense qu'il faut sans doute retravailler sur cette logique-là. Mais de dire, justement, de permettre à un propriétaire qui serait dans cette situation d'un habitat extrêmement dégradé, c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure. Avec le syndrome de Diogène au-dessus d'un appartement, les écoulements des moisissures qui, à la fin, ça met en danger le bâti et ça contamine tout le monde. Donc là, on devrait pouvoir imposer, si la personne ne veut pas, qu'il y ait les travaux, ça, on sait le faire, et le financer par ce bail à réhabilitation qui permet de le lisser sur plusieurs années, et au moins la collectivité serait sûre de récupérer ses sous. Mais, encore une fois, j'écoute et je suis bien prêt à retravailler la chose si jamais ça devait être le cas.
C'est vrai que. Bonne idée sur le papier, mise en application encore à discuter sur certains points.
Oui. Parce que le propriétaire qui est. Voilà, l'arrêté de péril, pour moi, ça existe déjà. Donc aujourd'hui, un arrêté de péril.
Oui, il ne faut pas superposer peut-être des choses qui.
Concrètement, vous avez une mise en demeure, le propriétaire reçoit une mise en demeure de faire des travaux, et en attendant, les loyers ne tombent plus. C'est-à-dire que ça suspend automatiquement le paiement des loyers. Donc c'est la double peine pour le propriétaire, parce qu'il doit faire des travaux, il faut qu'il trouve l'argent, et en plus, il ne touche plus de loyer. Et pendant ce temps, souvent, il faut reloger aussi le locataire, aux frais du propriétaire. Donc c'est extrêmement compliqué. J'ai des dossiers où ça fait depuis 2 ans qu'on a des arrêtés de péril. Le locataire, ça lui convient très bien. Parce qu'il est logé gratos, alors pas très bien peut-être, mais il ne veut pas déménager, etc. Et le propriétaire, il est bloqué, parce qu'en plus, quand il veut faire les travaux, le locataire n'ouvre pas la porte. Donc on arrive aussi parfois à des situations complètement ubuesques, où on n'arrive pas, on ne sait pas comment s'en sortir.
Mais encore une fois, là, il ne s'agit pas de dire que c'est tous les logements, c'est vraiment une extrême minorité de logements, mais qui met en cause la sécurité des gens. L'arrêté de péril, c'est jamais pris à la légère. Et c'est vrai que, pour l'instant, les seuls qui peuvent intervenir, ce sont les communes ou les EPCI, et qui doivent payer. Et là, c'est pas forcément non plus très juste que ce soit la collectivité locale qui est. Et donc le contribuable local aussi, quand même, derrière, qui paye pour ça.
Est-ce qu'il y aurait des solutions alternatives, justement, si ce contrôle technique n'est pas sur les rails ?
Il y a des choses qui fonctionnent. À Marseille, on sait qu'il y a eu des opérations à l'échelon local, ce qu'ils appellent des opérations d'amélioration de l'habitat, et ça a bien fonctionné. Alors on s'est donné les moyens, parce que, comme d'habitude, c'est une question de moyens, les moyens financiers qu'on donne. Et à Marseille, il y a quasiment 500 immeubles, vous savez, qui ont été évacués à la suite des effondrements dont on a entendu parler, rue d'Aubagne, etc. Et ça a fonctionné. J'ai l'impression que moi, j'ai eu des clients qui étaient concernés d'ailleurs. Alors pour eux, c'était moins drôle parce qu'effectivement, ils ont dû reloger à leurs frais, payer l'hôtel, même les factures d'hôtel pour leurs locataires. C'est la ville de Marseille qui avait avancé les frais, qui a relogé, tout ça s'est fait comme ça. Et ensuite, le client rembourse, le propriétaire rembourse. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un succès à Marseille. Alors je pense qu'il y avait une volonté politique aussi, il ne faut pas se leurrer.
Toujours.
En fait, l'idée du contrôle technique est surtout préventif. C'est d'éviter qu'il y ait une dégradation en accompagnant davantage les propriétaires en la matière et encore une fois en les protégeant. Marseille, moi, j'avais une mesure dans la première version de la proposition de loi qui ressemblait un petit peu à ça. C'est qu'à un moment donné, on a identifié un sujet. Marseille, je ne sais plus combien il y a de quartiers qui sont concernés, une quinzaine, je crois, de mémoire, plus un quartier multisite où on a pris des immeubles par-ci, par-là. On sait que ça existe, on met d'équerre et en ligne droite la justice, les opérateurs de travaux, la police, les pompiers, tout le monde, la collectivité locale, et on s'y met pour résoudre. Et ça a bien fonctionné. Ça, je pense que c'est tout à fait de nature et qu'il faut s'inspirer de ça pour traiter les îlots les plus dangereux et les plus massifs d'habitat indigne. Ça ne résoudra pas le diffus, parce que vous savez, on ne se rend pas compte. Mais en réalité, l'habitat indigne, il est vraiment à côté de chez nous. Hein. Ça peut être la maison d'indivision successorale où les héritiers ne s'entendent pas. Et le notaire, à un moment donné, il n'a plus les sous pour entretenir. Donc, à un moment donné, ça va un peu à volo. Ça peut être aussi... je le vois dans ma ville, dans une des villes de ma circonscription, à Cergy. C'est une ville nouvelle. Et sincèrement, c'est plutôt une des villes nouvelles qui fonctionne bien. Donc, pas se plaindre. Les gens qu'on appelait les pionniers, qui sont arrivés en premier, c'était il y a 50 ans. Donc maintenant, souvent, ils déménagent pour aller un peu ailleurs et ils vendent leur pavillon. Parfois, le pavillon, il est racheté par quelqu'un qui met d'abord 4 étudiants et puis 2 ans plus tard, il met 15 personnes qui travaillent dans le BTP de façon transitoire et puis après, ça devient compliqué.
Ouais.
Et donc voilà, il y a une grande diversité de situations, mais l'outil massif à fort impact sur des îlots d'insalubrité, je pense que c'est en effet, c'est ce qu'il faut faire.
À Paris, ça a fonctionné aussi.
Mon système, il est préventif.
Oui. À Paris aussi, on a bien lutté contre... Oui, depuis 20 ans, ça fonctionne. Alors, résultat, j'ai vu ça dans un article récemment, les marchands de sommeil se dirigent vers la banlieue maintenant. À Grigny, évidemment, et on se déplace. Et ensuite, ils vont aller de plus en plus loin. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Donc moi, je redis encore une fois, il faut se battre contre les marchands de sommeil, mais il ne faut pas en profiter pour mettre des obstacles à tous les propriétaires, l'immense majorité des propriétaires qui, eux, évidemment,
Et puis, je plaide aussi, foi. Mais c'était mon collègue, qui n'est plus mon collègue parce qu'il ne s'est pas présenté, qui était Michael Nogal, qui était qui travaille beaucoup sur ces questions, et je trouve qu'il a raison. Il faut aussi faire comprendre aux propriétaires que parfois, il faut professionnaliser l'acte de louer. Professionnaliser l'acte de louer. Être bailleur, ça demande beaucoup de temps. C'est maîtriser des contingences de réglementation et de lois qui sont complexes. Et parfois, il faut... moi, je vois, alors c'est pas dans ma circonscription, mais à côté, dans des communes à côté, des gens qui, très sympathiquement, ont transformé la grange du corps de ferme qu'ils ont racheté en logement pour les louer. On est à la limite du logement indigne, oui. Mais c'est pas parce qu'ils l'ont voulu,
Et en même temps, c'est un vaste sujet. Il y a une telle crise en ce moment, et des prix qui ont tellement explosé, notamment en Île-de-France, que, on cherche un petit peu les mètres carrés, et tout va être exploité, plus la pression, on va le voir, avec les Jeux Olympiques. Mais ça sera un autre sujet, on pourra en discuter. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur cet habitat indigne, ce que c'est, les moyens. On a bien compris qu'il fallait insister sur la prévention, c'est le maître mot. Et puis, il y a du pour, il y a du compte, en tout cas, ça favorise les discussions et on n'en a pas fini d'en parler sur Radio Immo. Un grand merci à nos deux experts du jour, Guillaume Vité, député du Val d'Oise, et maître Romain Rossilandi. À très bientôt, messieurs, sur Radio Immo.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Allô Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.